On sait de quelle unité ils étaient ? On sait de quelle unité ils étaient ?
Non, il n'a pas dit l'unité, mais il a
dit c'était dans le nord, dans le sud.
Non, dans le sud,
non, mais dans le nord d'avant.
Après
les ordonnances
de l'hôpital de au nord ou au sud ?
Aza.
Non, Gaza, mais où ?
Lui, il dit 10.
Non, 10, où trouve la pire 21, ça a bien marqué 21.
Ou à Khaïnounès ou à
Khaïnounès ou
à Khaïnounès ? Je ne sais pas, je sais que j'ai mon fils qui est là-bas, qui dort dans les maisons là-bas et que je suis angoissé. Bichlal pour tous.
C'est des Miloïm.
C'est dans les années ?
La semaine prochaine.
Oui, sur ça, vous
êtes à la campagne. Non, le père de ma femme il était grand, mais. Top. Top. Eh bien, les amis, après les nouvelles, c'est un moment très difficile. Bah, c'est un moment très difficile, mais en même temps, c'est un moment difficile qu'on vit depuis. Depuis plus de 3 mois. Et. Et en fait, on n'a pas d'autre choix que de s'attacher à la longitude et la longueur, l'éternité de l'histoire du peuple juif. C'est à chaque fois qu'on a quelque chose de ponctuel, très dur, il faut se rappeler que « Shelo echad bilvad amad aleno lechalotenu v'akadosh baruch hu matzilenu miyadam » Et c'est vrai que c'est très difficile. C'est des amis, c'est des familles, c'est des parents. Et bien sûr qu'on va gagner cette guerre. Et bien sûr qu'on va sortir de tout cela beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand.
Mais après, c'est une victoire amère.
Ah, c'est une victoire très amère, c'est évident. Rappelons-nous quand même les 6000 morts que nous avons eues durant la guerre d'indépendance. Et c'est terrible, parce que 6000 morts à l'époque, on était 600 000. On était 600 000. Donc c'était 1% de la population. 1% de la population, c'est énorme. C'est énorme. Quand on sait qu'aujourd'hui, on est 7 millions de juifs en Israël, imaginez-vous ce que c'est 1%. C'est-à-dire donc c'est énorme. Mais au final, tous les ans, on fête Yom HaAtzmaout.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a Yom HaZikaron d'abord. On a créé cette force-là dans le peuple juif qu'on ne fait pas l'un sans l'autre. On a créé cette réalité que à Pessah, on mange le maror et également la matzah. On se souvient de la difficulté et on se souvient aussi de l'allégresse après. Mais il y a, enfin, moi j'ai souvent dit ça, qu'il y avait cette dimension du Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaout, comme quand on mangeait le maror et la matzah, mais en vrai c'est très différent. Parce que le maror nous rappelle les larmes de toutes ces fois où on a pleuré en Égypte parce qu'on s'est pris des coups de fouet. Et parce qu'un de nos proches est mort sous les coups de fouet. Et je pense que c'est encore plus important de le dire encore aujourd'hui. Ça ne réconfortera peut-être pas les familles, certainement pas d'ailleurs. Mais lorsque, en Égypte, on se prend le coup de fouet de trop, et qu'il y a quelqu'un qui tombe, au pogrom qu'il y a eu... en 1929, ou alors qu'il y a eu en 1903 à Kishinev, 29 à Hebron, ou alors aux différents pogroms qu'il y a pu avoir aussi en Afrique du Nord, où les goyim sont venus, nous ont frappés. Il y en a qui ont réussi à se barricader, il y en a qui ont réussi à s'en sortir, et il n'y en a que non. Et combien de synagogues ont été enfermées avec les juifs à l'intérieur au Moyen-Âge? Et on a mis le feu à la synagogue. Hein?
À Blois.
Par exemple. Et donc ça, ça ressemble au maror qu'on mange à Pessah. Mais nos soldats qui tombent ne ressemblent en rien à cela. Parce que nos soldats qui tombent, non seulement ils ne tombent pas pour rien, ils tombent dans une guerre que nous n'avons pas forcément voulu, mais que nous allons gagner, et ils tombent pour me protéger.
C'est
des Gibori Israël, et ils sont bien plus, et je l'ai déjà dit et je le redis, et ils sont tellement plus en termes de Kiddush Hashem que le juif qui a été tué sous les coups du Kozak. Déjà lui, il est mort à Kiddush Hashem, et déjà lui, il est Yoshev Bemchitzato Shel HaKadosh Baruch Hu Began Eden. Mais parmi les gens qui meurent à Kiddush Hashem, il y a celui qui a été tué parce que juif, et celui qui est mort parce qu'il protégeait le peuple juif. Et je me rappelle ce matin les paroles du Rav Israël Meir Lau, le grand rabbin de Tel Aviv, le grand rabbin d'Israël, qui avait dit en 2005, lors des 60 ans de la libération des camps, il avait dit, dans la Shoah, le peuple juif a appris à mourir ensemble. Et le défi de l'après-Shoah sera de vivre ensemble. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos soldats, ils nous apprennent qu'ils meurent pas ensemble, mais pour le ensemble. Il n'y a pas à l'armée en ce moment, et là on parle de Milouim Nik ce matin. C'est-à-dire quoi? On parle de gens qui ont fini leur service militaire depuis longtemps, qui ont tous leur vie, et je ne les connais pas, je n'ai pas vu les noms de tout le monde, mais on parle de gens qui avaient très certainement dans leur unité des gens de gauche, des gens de droite, des religieux, des pas religieux, des célibataires, des pères de famille. Ça, on parle mamash de Klal Israël. Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où ils rentrent dans les combats, ça n'existe plus, la gauche, la droite, le religieux, le pas religieux. Ils sont tous conscients qu'on se bat pour la maison, pour nous, pour la synagogue de Emouna. Je vais arriver à une brit mila tout à l'heure, je vous ai dit. Je pense à ça, je pense au moment où ils vont dire Ve'omar lach bedamai chayim. C'est par leur sang que nous vivons. Ils nous ont donné leur vie, tout simplement. Alors, je ne sais pas combien. On arrivera à Yom HaZikaron, eh bien, ça sera la même force que ceux qui sont tombés à Yom HaTzmaout, ceux qui sont tombés à Sheshet HaYamim, ceux qui sont tombés et qui nous disent bah, « Je suis tombé, mais je ne suis pas tombé pour rien, je suis tombé pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Bémet, c'est Hachayla, Rabotay. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne suis pas tombé pour rien. Vous savez que dans la guerre d'indépendance, il y a eu 6000 morts. On l'a dit. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sur ces 6000, la moitié, un peu plus de 3000, sont des rescapés de la Shoah. Qui sont arrivés il y a 2 minutes en Israël. On leur a mis, pour la plupart, même pas un fusil dans les mains parce qu'il n'y en avait pas assez. Ils avaient survécu au camp et ils se sont battus pour Israël.
Les Thierry.
Oui, il y avait de tout. Maintenant, ces gens-là, tous ne sont pas morts, Baruch HaShem. Il y en a qui ont survécu aussi à la guerre d'indépendance. Et quand on leur demandait, mais enfin, il y a au Har Herzl une andarta, un monument du souvenir qu'on appelle Andartat Netzera Acharon. Je vais tout le temps là-bas. Chaque fois que j'ai des gens que je guide à Arzel, je vais là-bas. Et ce n'est pas, c'est pas une tombe à proprement parler, c'est un monument, c'est une maison à l'envers, dans le sol. Et en fait, on parle de toutes ces personnes qui n'ont pas eu le temps de créer leur maison. Ils étaient la dernière branche, ils étaient les derniers rescapés de leur famille de la Shoah. Ils sont arrivés en Israël et ils sont tombés. Et quand tu demandes à des rescapés qui ont vécu la Shoah, qui ont survécu, qui ont vécu la guerre d'Allemagne, qui ont survécu, tu leur demandes, qu'est-ce que t'en penses ? Ils disent, mais vous êtes fous, mais on était tous tellement heureux de pouvoir mourir pour quelque chose.
C'est les Khalalim Bodedim.
C'est les Khalalim Bodedim. Mamash Kacha. Et on mourait pour quelque chose. On mourait pour un idéal, pour une vie, pour quelque chose, pour le peuple juif. On n'était pas emmenés comme des moutons à l'abattoir. Donc ce qui était vrai hier est encore plus vrai. Chacun a son niveau et voilà. Certains d'entre nous sont plus jeunes que d'autres, d'autres un peu moins. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ça la question. Et je vais vous dire un truc. On ne peut pas... On apprend des nouvelles qui nous mettent un gros coup au moral, comme tu as dit, mais on ne peut pas rester sur la note de la négativité, de se mortifier et d'être en dikaon. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est dur, hein ? On n'a pas le droit. On doit agir, construire, et on doit se poser la question. Manio Sercha, Annie. Parce qu'il m'a donné sa vie, qu'est-ce que j'en fais ? Je suis dépositaire de leur vie. Mamash kacha. Je suis dépositaire de leur vie. Qu'est-ce que je vais en faire de cette vie ? Et c'est l'homme échané s'il me reste 10 ans à vivre, 50 ans à vivre. L'orachou. L'orachou. Il faudra que. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour être quelqu'un de bien.
Qui m'ont préservé, qui m'ont protégé.
Ils m'ont donné en picadon.
Ils m'ont pas donné. C'est Hachem qui m'a donné la vie.
Kadosh Baruch Hu, il te donne ta vie, bien sûr. Mais quand Israël arrive, il me s'est basé, non ?
C'est ce que je dis, c'est que grâce à eux, on peut continuer à vivre.
Et maintenant, tu deviens un petit peu eux.
Un peu de
bien sûr. Arrête, Klal Israël, c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 de juifs. Il y a Neshama Klalit qui s'appelle Klal Israël. Et dans cette Neshama Klalit, toi et moi, on est différentes émanations, différentes ofaot de ce Klal Israël. Mais ceux qui sont tombés hier soir aussi, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces ofaot-là ? À moi de les reprendre et d'essayer de les mettre au mieux possible.
C'est très fort, c'est très haut comme idée. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut... C'est beau à dire, mais c'est une...
C'est une responsabilité énorme. Je ne vis pas que pour moi. Mais Bémet, c'est peut-être ça le lien avec Tu Bishvat, en fait. Vous savez, Tu Bishvat nous dit la Torah... qui a Adam et sa sade. Adam, il est comparé à l'arbre. Et l'arbre, il a trois éléments. Il y a trois parties dans l'arbre.
Il y a
les racines, il y a le tronc, et il y a les feuilles et les fruits. Les branches. Quelle est la partie la plus importante de l'arbre ?
Les racines.
Ah, bien sûr que c'est les fruits. C'est pour ça qu'on l'a planté. C'est pour qu'il donne des fruits, non ? Pourquoi on l'a planté, cet arbre ? Soit c'est pour qu'il donne de l'ombre, de la photosynthèse avec ses feuilles, soit si c'est un arbre fruitier, c'est pour qu'il donne des fruits.
Mais pour qu'il puisse vivre.
Ah, il y a fait. Il y a fait. C'est-à-dire que le plus important, c'est l'objectif pour lequel je l'ai mis. Mais cet objectif, il ne peut pas se réaliser
s'il n'y
a pas les racines
voilà.
Et s'il n'y a pas le tronc. Exactement. Parce que si tu as des racines, mais tu as un tronc qui fait comme ça tout le temps, il ne tiendra pas. D'accord ? Donc tu as besoin des racines, et ces racines, elles sont amok amok ba'adama, elles sont dans le sol, et elles puisent dans le sol tous les nutriments, tout ce qu'il y a besoin pour qu'ils grandissent. Il y a le tronc qui grandit, et plus il est fort, et plus l'arbre il va être fort et stable. Et puis après, ça va donner des feuilles et des fruits, et l'idéal qu'on essaie d'atteindre.
C'est contre la physique naturelle, puisque c'est contre la gravité, puisque la sève, elle monte.
Mamash kacha. Tzadik, katamar, ifra. Mamash kacha. Et ben nous, c'est pareil. À Adam, tzadik, katamar.
C'est quoi katamar?
Comme le tzadik, il est comme le palmier.
Oui.
Il pousse vers le haut.
Ifra, c'est...
Ifra.
Katamar, c'est le datier.
Alors pourquoi est-ce qu'on a pris comme exemple le datier? Tu aurais pu dire tzadik, kaetz tapouar.
Non, parce qu'il pousse.
Il a fait. Lui, il monte que vers le haut. Il cherche que à monter, 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 monter le datier. C'est vrai? Chav, Adam, où est sa sadé? Adam, il a lui aussi des racines. C'est ses grands-parents, ça, les grands-parents. Ils sont aussi dans le sol. Mgamba, Adam. C'est nos proches qu'on a enterrés. Et ils nous servent de nutriments. C'est eux qui nous ont nourris. C'est eux qui nous ont fait grandir. C'est eux qui nous ont permis d'être qui on est. Tout ce qu'on est, on l'a reçu de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. C'est nos racines. Puis après, on a le tronc, c'est nous. Et plus le tronc, il est fort, il est stable, plus notre identité, elle est forte. Mais on n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est nos enfants. L'idéal, c'est nos fruits. La mémoire, elle est dans l'arbre, parce que ce qui est fantastique, c'est que ces racines, en fait, où est-ce qu'on les retrouve dans l'arbre?
Les racines?
Ouais. Je parle au niveau botanique. Hein. C'est-à-dire, si tu prends un morceau de racine, oui, et tu prends un morceau de tronc, c'est pas la même arbre, c'est pas la même chose. Tu retrouves, oui, pas dans le tronc ce que tu as dans les racines, ni dans les feuilles, ni dans les fruits.
Les branches?
Dans les branches non plus.
Les fruits directement?
Même pas. Enfin, pas dans le croquage du fruit, mais par contre dans le noyau. Dans le pépin de la pomme, il y a le code génétique et avec des racines. Donc en fait, où est-ce qu'on va retrouver mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents? Même pas dans mes enfants, dans ce que mes enfants, eux, ils vont donner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est sur une construction perpétuelle.
On a une responsabilité de mémoire.
Mais même pas que de mémoire, hein, parce que la mémoire, c'est regarder derrière. C'est une responsabilité de hop, hop.
Non, mais chacun de nous ici, qui sont pères, ou pour certains qui sont grands-pères, ou d'autres qui sont arrière-grands-pères, il faut raconter.
D'accord, barou.
Il faut raconter.
Barou,
moi,
barou,
j'ai
barou
des histoires quand je raconte à mes petits-enfants. Non, mes petits-enfants. Je raconte des histoires quand moi j'étais petit, mon grand-père, quand j'étais petit, à leur place. Donc c'est plusieurs générations.
Bah, je vais donner une anecdote. Tu veux que je donne une anecdote? Là, ce matin, j'ai emmené mon fils chez le Rav Yehuda Benichel. Hier, mon fils, il était chez le Rav Shmuel Eliyahu. Et avant-hier, il était chez le Rav Cherki. Fait Sivouf Sheharim, chez Aré à Torah. Et dimanche, c'était mamash le jour de sa bar mitzvah. Alors, je ne rentre pas dans la polémique ou pas de polémique. On s'est levé très tôt le matin. On a été prié Vatikin. Et ensuite, on a été faire trempette dans une eau sympathique. Et de là, on est parti à la montagne de Dieu.
La montagne?
La montagne de Dieu.
Ah
oui. Arachem. Arbet Hashem. Et quand on est monté là-haut, je lui ai dit, regarde, viens, on réfléchit deux secondes. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de t'amener Arbet Hashem. Et je repense au moment où moi, j'étais bar mitzvah, et où mon père, il m'a amené à la synagogue israélite de Metz, où j'ai mis mes tefillin. Je ne savais pas vraiment les mettre, on m'a appris vite fait. Je pense que la fois d'après où je les ai mis, c'est peut-être quand j'ai fait tchouva, quand j'avais 18 ans. Et je pense au moment où mon père, son père, mon grand-père, ton arrière-grand-père, il l'a amené mettre cette tefillin. Là aussi, à Metz. Mais je ne sais même pas s'ils avaient des tefillin, ou c'était oui, non, est-ce qu'il l'a appris, il ne l'a pas appris. Et puis quand je repense à mon grand-père, ton arrière-grand-père, son père, qui lui a mis les tefillin en Pologne. Et moi, j'ai la chance de t'amener ici. Et Bezrat Hashem, toi, t'amèneras ton fils mettre les tefillin au Beth Amikdash. Pas seulement à la montagne de Dieu, mais t'iras au Beth Amikdash. Et j'espère que je pourrai être là pour amener mon petit-fils aussi avec toi au Beth Amikdash. C'est de ça qu'on parle. Mais d'où moi j'ai la force de faire ça? C'est parce que mon père, il m'a donné tout ce qu'il m'a donné. Même s'il ne le sait pas. Parce que mon père, il ne m'a jamais appris que Har Beth Hashem, Beth Amikdash. En fait, si. Parce qu'il porte en lui aussi ce qu'il a reçu, ce qu'il a reçu, et même ce qu'il a pas il a oublié qu'il a reçu. Et donc, c'est de ça qu'on parle, les amis.
Ce qu'il ne sait pas, des fois.
Je ne sais même pas s'il sait ou pas. C'est, même pas, c'est au-delà du savoir.
C'est
mamashkacha. Et en fait, c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de Gdushat à Segula, tu sais, quand le Rav Kook parle de la Gdusha, hein, du peuple juif, il y a deux Gdushot. Il dit dans Igirat HaKana, il y a la Gdusha de la Segula et la Gdusha de la Bechira. La Bechira, c'est les actions. C'est ce que je suis conscient et que je fais. Je me lève le matin, je mets mes tefillin.
C'est individuel.
C'est même collectif. Mais même collectif, mais c'est dans le choix de faire ou de ne pas faire. C'est conscient. La Gdusha de la Bechira, c'est conscient. Je choisis de faire le bien ou de ne pas faire le bien. Je choisis de faire les mitzvot ou de ne pas faire les mitzvot. C'est un choix personnel ou collectif. Am Israël décide de créer l'État d'Israël. C'est tov. C'est mitzvah. C'est-à-dire, choisis ou alors d'aller au non-gada. C'est aussi un choix. D'accord? Donc ça, c'est la Kedusha de la Bechira. La Kedusha de la Segula, c'est parce que je suis l'héritier d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, j'en suis conscient ou pas, c'est l'homme échané.
C'est lié.
Bien sûr que c'est lié. Nous dit le Rav Kook, Dieu, il a prêté un serment. Il a dit, Baolam Azeh, la Kedusha de la Segula se révèle par l'intermédiaire de la Bechira. Sauf qu'elle se révèle. Mais même si elle ne se révèle pas, elle est là. Jusqu'au moment où elle va se révéler.
C'est comme le Mashiach qui est présent. Qui est
il y a une force messianique qui est présente. Il faut la mettre en place. D'accord? Donc c'est ça Tu Bishvat en fait. Parce que Tu Bishvat, c'est la fête qui n'a jamais vraiment eu lieu. Parce que c'est la fête où, en fait, pendant des années, on ne la voyait pas. C'est la sève qui remontait dans les arbres, dit le Talmud à Yerushalmi. On ne voit pas. Pourtant, c'est ça qui va permettre à donner le fruit.
Comment tu dis la sève en hébreu ?
Sachar.
Sachar.
Qui monte dans les arbres. Et c'est ça qui va lui donner son sang, sa vitalité. Jusqu'au moment où le fruit sort. Et dès que le fruit sort, ben, tout d'un coup, tu te rends compte de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Et c'est quoi ce fruit qui sort? Ou gamme au sens propre, ou gamme au sens figuré. Il y a une dame qu'on connaît dans notre communauté, une gamme fantastique, je la cite tout le temps. Vous savez que, d'après la halakha, nous, quand on dit, on rappelle la mémoire d'un tzadik qui est décédé, on dit « Zecher tzadik livracha ». Mais en vrai, d'après la halakha, il ne faut pas faire ça que quand on parle de quelqu'un qui est décédé. Dès qu'on parle d'un tzaddik, il faut dire Zecher tzaddik livracha. Pas parce qu'il est mort. Tu as rappelé le nom d'un tzaddik, livracha. Zecher, il n'est pas forcément mort. Je parle de quelqu'un, je me rappelle de quelqu'un qui est à 10 km de moi, mais il n'est pas là. Il dit, ah, rappelle-toi ce qu'a dit le Rav Shmuel Eliyahu.
On ne dit pas plutôt qu'il ait une vie longue.
Alors, on a, tu sais, j'ai pas obligé de dire la formule Zecher Tzadik Livracha. Tu peux dire.
Tout de suite, on pense à ça.
Nachon, on pense à ça. Nachon, on pense à ça. Mais on a changé, on a dit Shlita. Okay. C'est-à-dire, Shlita, ça passe. Ok. Mais En vrai, tu dois l'évarer et Shem Hatzadik, qu'il soit mort ou pas mort. Tu rappelles le nom d'un tzadik, bracha. Sheyelo orech yamim tovim arukim. Maintenant, quand tu dis le nom d'un rachat, hein, tu dois faire peu. Donc il y a une dame dans notre communauté qui s'appelle Felicia Tzadika. On est tous fans. Felicia. Elle te raconte ce que c'est d'être une jeune juive après la guerre en Pologne baignée d'antisémitisme. Parce que tu crois que l'antisémitisme est fini, il n'est pas fini du tout.
Non.
Ok ? Et elle te raconte. Et elle te raconte comment elle s'est éveillée au sionisme. Elle, la jeune juive de Pologne. Elle te raconte comment à 8 ans, il y a un mec de sa classe qui lui a dit « T'as rien à faire ici, va en Palestine. » En Israël. Et elle est rentrée chez elle, elle a pris une carte du monde et elle a pris sa règle. Elle a essayé de mesurer combien de temps ça lui prendrait d'arriver en Israël, depuis la Pologne, à pied. On lui a dit de partir en Israël. Très bien. Puis elle raconte qu'un jour, elle rentre de l'école avec son frère, il doit avoir 12 ans, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Et lui, il y avait sur la maison, il y avait un carton. On avait reçu un carton, un colis. Et sur le colis, il y avait marqué de Eretz Israël. C'était un carton qui venait du cousin de mon père, qui habitait en Israël. C'était un carton d'Israël. Recevoir un carton d'Israël, c'était inespéré. Elle dit, évidemment, on n'osait pas ouvrir le carton, parce qu'on attendait papa et maman. Mais il y avait une odeur qui sortait de ce carton, on ne comprenait pas. Finalement, papa et maman, ils sont rentrés. Papa, il a ouvert le carton et il a sorti de ce carton des boules de couleur orange. On n'avait jamais vu ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces boules? Mais elles avaient une odeur. Et puis, dès que tu les frottais, ça sentait encore plus. Il y avait marqué que c'était des fruits d'Eretz Israël. On ne connaissait pas. Alors mon papa, il a pris un couteau, il a coupé. On a commencé à les manger. Et comme on ne savait pas comment il fallait les manger, on a tout mangé. Il a dit, au début, c'était fantastique, il y avait une pulpe jaune. Comme c'était doux, comme c'était bon, comme c'était un peu acidulé. C'était fantastique. Puis après, on a mangé le blanc. C'était un peu moins bon. Puis après, on a mangé le orange. C'est pas très bon, le orange.
C'est confit, c'est très bon.
Oui, mais d'accord, mais ils ne savaient pas qu'il fallait le faire confit. Ils ne savaient pas que c'était la peau qu'il ne fallait pas la manger. Eux, en Pologne, ils connaissent la pomme. Pomme, tu manges tout, ils ne connaissaient pas les oranges. Il dit, ça, c'est les oranges. Ça, c'est les fruits de l'Éthiopie d'Israël, les oranges de Jaffa. Zéapérot, en bataille. Donc, pendant 2000 ans, tu as la sève qui monte, tu as la sève qui monte. Tu sais que ça va arriver. Parce que là, Gemara, elle nous a dit, Maseret Sanhedrin, Bedaf, Tzadik, Ret, Amud, Bet, que c'est quoi le siman de la Géoula? C'est pas quand les gens mettent les tefilines dans la rue. C'est quoi le siman de la Géoula? C'est la terre d'Israël qui redonne ses fruits. Et donc, on le savait. Et on avait lu Mark Twain, Oliver Twist. On l'avait lu, on l'avait lu. Il a dit, c'est quand même bizarre. Moi, je suis venu, il est venu ici. Il dit, mais c'est pas possible. Cette terre dont on m'a parlé dans la Bible. Et on m'a dit dans la Bible, c'était un Gan Eden. Et là, je vois que du désert, c'est pas possible, c'est pas le même endroit. Alors, la seule explication, c'est parce que cette terre attend ses légitimes propriétaires pour pouvoir refleurir.
Dans quelle année ça?
Mark Twain, c'est il y a 200 ans.
Ah, parce qu'il y avait aussi Marc Maupassant en 1800.
Il y a Maupassant, je sais pas, il y a oui, Chateaubriand. Qui vient. Mais Macron, tout d'un coup. Tous les six ont dit la même chose.
Et des renards.
Tous ont dit la même chose. Et tout d'un coup, Am Israël, il revient et les fruits reviennent. Haine. Donc c'est évident que nous vivons un moment très dur, mais c'est évident que sur le long terme, on va gagner.
Vous parlez de tout Bishvat, c'est vrai que la fête de tout Bishvat, elle refait une autre importance quand tu habites en Israël, par rapport à ce que quand tu étais en France, c'est, comment dire, c'est joli, c'est un peu... Et là, tu sens que c'est beaucoup plus aujourd'hui.
C'est dommage, Kacha. C'est dommage, Kacha. Et puis, la fête de Tou Bichvat, le fait que tu sois... Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit au Tanou Hashana que vraiment, ça va être la pluie. Mais quand tu fais une fête comme ça, en plein milieu de la pluie, de l'hiver, tu ne vois pas encore le printemps arriver.
Mais non, c'est là, maintenant, d'après.
Ah ben, pourtant, oui. Comment est-ce qu'après le drame de hier soir, on peut se dire, on va la gagner, la guerre? Parce qu'on va la gagner, la guerre. Mais c'est dur avec ce qu'on a vécu hier soir. D'accord? Et c'est dur de se dire, alors qu'il va pleuvoir à torrent, que Ototo, c'est à printemps. Et c'est dur quand le Arizal, il te dit, et Azamir Igia, que ça va être dans 400 ans. Et c'est dur quand le Gaon de Vilna, il te dit, il faut retourner à Jérusalem, construire la Khourba. Mais enfin, les Ottomans, les machins. Chav! Kol ator nishma be'artzenu. Nachon. Il y a ceux qui ont la grande vision. Il y a ceux qui voient loin et qui arrivent à nous dire, Rabotai, Zematril, ne te trompe pas. Ne te trompe pas d'état d'esprit dans les levayot. Une levaya, c'est toujours terrible. Un enterrement, c'est terrible. Mais ne te trompe pas et ne viens pas comparer la levaya du pogrom de Hebron, la levaya du pogrom de Casablanca, la levaya du pogrom de Kishinev, de Khmelnytskyi. Ne viens pas te tromper. Ne compare pas ces levayotes-là aux levayotes de nos soldats extraordinaires. Parce que eux, ils sont tombés et le processus n'avait pas commencé. Et eux, ils sont tombés parce que nous sommes en train de gagner. Et ils sont tombés pour qu'on puisse continuer à grandir. C'est pas la même chose. Emma Perrot. Et nous, on est le noyau. Et Béhémet, il faut leur rendre hommage et se poser la question, qu'est-ce que je fais maintenant pour mériter ce cadeau qu'ils m'ont fait, pour être quelqu'un de bien, pour faire le bien, pour influencer autour de moi? C'est entre mes mains. Chacun à son niveau, évidemment. Mais c'est entre mes mains. La question qu'on doit se poser, c'est Ma Ani Ose Arshav pour mériter la vie qu'ils m'ont permis de vivre. J'ai les Elou Nishmatam et que ce drame soit le dernier.
Tous nos décideurs, tous ceux qui en ont aujourd'hui qui sont à la tête, de prendre les bonnes décisions parce que je n'aimerais pas être à leur place.
Amen, amen.